Donc nous devons prendre conscience que nous avons quelque chose à dire. De plus, cela demande un approfondissement de l'identité. Pas seulement du judaïsme, de l'accomplissement des mitzvot, comme on a l'habitude de le dire. Non, non, il s'agit ici d'une interrogation véritable qui se pose dans tous les secteurs de la société, de savoir qui nous sommes. À partir du moment où nous trouverons des réponses à ces questions, c'est là que nous aurons l'assurance d'avoir quelque chose à dire à l'humanité.
On connaît tous le rabbin Uri Cherki pour ses cours qu'on suit régulièrement sur les réseaux sociaux, mais le rabbin Cherki a beaucoup d'activités et c'est l'occasion pour nous de faire un petit tour justement de ces activités très nombreuses du rabbin Cherki. Merci beaucoup d'être avec nous, Rav Cherki.
Merci, c'est un honneur aussi pour moi d'être à Kalita.
On va parler de ces activités. Je voudrais commencer quand même par une question un peu plus générale et qui est liée aussi à une de vos activités. Vous parlez beaucoup de la lumière d'Israël, que Israël doit être une lumière pour les peuples. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est que Israël est diabolisé un peu partout dans le monde. On n'arrive pas à voir vraiment, en tout cas peut-être que vous allez nous faire voir, comment Israël va devenir une lumière. Lorsqu'on parle d'Israël, qu'on parle de génocide, on parle de famine, même si nous on sait que c'est pas vrai, mais dans le monde entier, si on ouvre un journal, première chose qu'on voit sur Israël, c'est ça. Alors, comment on arrive à faire le pont entre ça et Israël en tant que lumière du
peuple? Ah, c'est merveilleux ce que vous dites. C'est-à-dire que quand on est diabolisé, c'est qu'on est important. Et surtout si on est diabolisé mensongèrement, ça veut dire que l'on pose problème et que on ressent probablement de manière intuitive que Israël a quelque chose à dire, non seulement pour lui-même mais pour l'humanité tout entière. Et effectivement, on voit aujourd'hui que ce qui se passe sur la scène internationale, c'est un positionnement autour d'Israël. Ce positionnement n'est pas à sens unique. Il n'y a pas seulement la haine d'Israël, l'antisémitisme, l'antisionisme. Il y a également des prises de position pro-israéliennes et pro-peuple d'Israël. On pourrait dire que nous sommes dans une situation dans laquelle l'humanité cherche des réponses à ces interrogations et qu'une des éventualités, c'est justement Israël. C'est la raison pour laquelle Israël est soit attaqué, soit adulé, mais très rarement dans l'indifférence.
Et donc, c'est quoi? C'est un processus que nous sommes en train de vivre
L'histoire est un processus. Ah oui, l'histoire, il y a une dialectique historique. Et le fait d'abord le fait israélien, le retour d'Israël sur sa terre, est évidemment un élément très important du bouleversement des idées reçues. Ne serait-ce qu'au niveau de la théologie chrétienne qui continue à s'agiter dans l'Occident, pour l'islam évidemment, ouais. Et de manière générale pour tous les hommes de bonne volonté, l'humanisme en général, qui se trouve confronté justement à une explosion de barbarie dans l'histoire du 7 octobre. Tout cela, effectivement, donne un sens à cet événement de l'État d'Israël et les péripéties qu'il traverse.
Et qu'est-ce que alors Israël doit faire? C'est ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il doit faire, ou il y a quand même quelque chose à changer par rapport pour justement devenir vraiment cette lumière des nations?
Disons que nous devons prendre conscience que nous ne sommes plus dépendants de la communauté internationale. Ouais. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, l'État d'Israël récemment a fait figure de puissance locale avec des conséquences également au niveau de la scène internationale. Et donc, nous devons prendre conscience que nous avons quelque chose à dire. De plus, cela demande un approfondissement de l'identité. Pas seulement du judaïsme, de l'accomplissement des mitzvot, comme on a l'habitude de le dire. Non, non, il s'agit ici d'une interrogation véritable qui se pose dans tous les secteurs de la société, de savoir qui nous sommes. À partir du moment où nous trouverons des réponses à ces questions, c'est là que nous aurons l'assurance d'avoir quelque chose à dire à l'humanité.
Alors justement, vous me tendez une perche, puisque c'est un peu ce que vous faites à partir de vos différentes activités. Une des activités, justement, c'est d'expliquer un peu qui nous sommes au peuple des nations, les Kemnes Noirs.
Absolument. C'est-à-dire que, si vous voulez, le noachisme que j'encourage, que je développe dans l'organisation Brit Olam, si vous voulez, c'est la conséquence. C'est-à-dire, si nous avons quelque chose à dire, alors il faut le dire. Or, il y a dans l'humanité une attente de ce genre. D'ailleurs, c'est bien Jean-Jacques Rousseau qui disait « Ce n'est que lorsque les Juifs auront un État à eux que nous saurons ce qu'ils ont à nous dire. » Eh bien, il y a un État à nous et il faut savoir ce que nous avons à dire. Et nous avons des choses à dire. J'ai pu rédiger d'ailleurs une sorte de Shulchan Aruch, de livre, un code de loi pour les Noachides, également un rituel de prière. Et nous avons également une sorte de tribunal Noachide, un tribunal rabbinique qui s'occupe également des interrogations des Béné Noirs, des fils de Noé. Tout cela a des répercussions au niveau international. Je pense par exemple à quelque chose qui a été un peu occulté, mais c'est le président d'Argentine, Milei, qui, quand il a reçu le code de loi, était tellement content, c'est que lorsqu'il a quitté l'avion, et qu'il s'est rendu compte que le livre était résident à l'avion, il a fait arrêter l'avion. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des répercussions au niveau de la réflexion identitaire dans le monde entier. Effectivement, c'est ce que nous faisons avec les contacts que nous avons avec des dizaines de milliers de non-juifs qui se définissent comme étant noachides et qui nous posent des questions, qui fondent des communautés et qui sont en rapport avec nous.
Alors on en avait parlé aussi, puisque vous étiez venu parler aussi de votre visite aux Émirats arabes.
Absolument.
Si je ne me trompe pas. Là aussi, c'est une activité aussi importante. C'est par rapport aussi aux non-juifs, justement, mais plus dans le monde musulman.
Alors, dans le monde musulman, nous avons une approche tout à fait différente.
Ouais.
Comme je dis d'ailleurs à nos amis noachides d'Europe ou d'Amérique, qui me demandent pourquoi est-ce que vous avez une attitude différente par rapport à l'islam, je dis parce que c'est une affaire de famille. Une affaire de famille, ça se règle en famille. C'est pour ça d'ailleurs que les accords sont appelés les accords d'Abraham, ce n'est pas pour rien. Les différents contacts que j'ai dans le monde musulman un peu partout me parlent d'une paix abrahamique. Et ça demande d'avoir le courage d'entrer dans les profondeurs des dogmes musulmans qui desservent très souvent justement l'islam. Et par respect ou par timidité, on a l'habitude de mettre ça un peu à l'écart, de pas trop parler des dogmes fondamentaux, mais il faut justement en parler pour régler une bonne fois pour toutes le problème de l'amitié entre Israël et Ismaël.
Alors c'est ce que vous faites, et pour tout ça, il faut qu'il y ait, on va dire... des penseurs ou en tout cas des responsables ici.
Absolument.
De la pensée israélienne, la pensée juive. Et là aussi, c'est une activité que vous avez développée ces dernières années, depuis six ans déjà. C'est une école de pensée juive.
Alors ça, absolument,
c'est,
oui.
Alors, c'est intéressant comme chose.
Absolument, c'est-à-dire qu'il est absolument indispensable qu'il y ait une sorte de centrale spirituelle dans laquelle est élaborée la pensée d'Israël. Or, ça devrait être le rôle des yeshivot, par exemple, mais c'est un peu délaissé. Il y a, pour être véritablement pertinent par rapport à la réalité aussi bien universelle qu'israélienne, il est indispensable qu'il y ait un lieu où les sujets les plus importants, les plus cardinaux de la pensée universelle et d'Israël sont traités dans leur profondeur. C'est pour ça d'ailleurs
que... C'est-à-dire qu'on explique vraiment quels sont en profondeur...
Absolument. C'est pour ça d'ailleurs que cette école s'appelle, en hébreu, Bet HaSefer HaGavua LeChokhmat HaEmunah, c'est-à-dire l'école supérieure de la sagesse de la foi. C'est-à-dire, alors qu'en général, on distribue la sagesse dans les universités et la foi dans les yeshivot, le présupposé, c'est que la foi d'Israël nous enseigne à penser. Et donc, il faut pour cela traiter de tous les sujets, aussi bien politiques que sociaux, que artistiques et culturels, moraux, enfin, tout ce qui préoccupe toute personne de bonne volonté sur Terre.
La société, surtout.
Et de la société, évidemment. Ouais. Et le projet est donc de créer une sorte d'élite intellectuelle alternative à ce qui existe actuellement en Israël.
Alors, pour que ça réussisse vraiment, il ne faut pas que ça reste dans cette école, justement. Il faut qu'après, justement, ces personnes qui viennent dans ces écoles...
Prennent des responsabilités par rapport à la société, par exemple.
Est-ce qu'on est on est en voie de ça? Parce que pour le moment, on voit malheureusement que c'est la politique, la base politique qui règne toujours en Israël, avec les combines, avec
tout ce qu'on voit. Oui, mais un kilomètre, ça commence par un pas. Et à partir du moment où vous faites un pas dans une certaine direction, eh bien, finalement, vous arrivez à votre kilomètre.
Et il faut de la patience.
Non seulement il faut de la patience, mais il faut, disons, de l'optimisme.
Okay.
De l'optimisme. Certains de nos élèves ont des positions très importantes dans le peuple, dans la société israélienne. Par exemple, nous avons une de nos anciennes qui va devenir juge très bientôt. Nous avons des personnes très haut placées dans les différents corps de sécurité d'Israël et un peu partout dans l'académie. Et donc, et également d'ailleurs dans le monde rabbinique. N'oublions pas cela. Mmh. Ça veut dire que quelque chose a commencé à bouger. Et c'est ressenti en tant que tel, je pense qu'il y a une onde qui commence à se propager. Alors évidemment, il faut avoir la modestie de savoir que nous sommes encore
au début,
en petit nombre, nous n'avons pas encore des milliers d'élèves, mais nous avons déjà des dizaines et peut-être des centaines.
Alors aussi, une initiative aussi très intéressante, et surtout dans cette période où on parle beaucoup de l'armée d'Israël, l'armée de Tsahal, on parle beaucoup de ce qui se passe à Gaza et on regarde à la loupe ce que fait l'armée israélienne plus que les autres armées. Et justement, vous êtes penché sur ce problème et vous avez voulu en fait faire un nouveau code éthique pour ça.
Absolument. C'est d'abord une exigence qui existe déjà depuis plusieurs années. Vous savez que le code éthique de Tsahal, d'ailleurs, a subi différentes transformations.
Ouais.
Il traduit les préoccupations d'une certaine élite, disons, cosmopolite et gauchisante, et qui ne correspond pas du tout ni à la loi internationale, ni à l'état d'esprit de la société israélienne. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative avec d'autres autorités d'anciens généraux de Tsahal de refondre ce qu'on appelle le code éthique de Tsahal.
Alors quels seront, enfin je suppose que c'est encore au début là aussi, mais quelles sont les bases de ce code?
Elle se base tout d'abord sur la morale universelle.
D'accord.
Et également sur la tradition d'Israël et la tradition de l'État d'Israël dans ses guerres. Il y a un déséquilibre dans le code actuel entre la fidélité, l'abnégation qui mène le soldat à défendre son peuple et son pays, et la prise en considération de la subjectivité de l'adversaire. Et c'est ça qu'il faut, disons, remettre en place.
Alors, une question, bien sûr, que vous allez devoir résoudre, en tout cas soulever dans ce code éthique, c'est la question des otages, qu'ils soient militaires ou non.
Écoutez, le problème des otages est un problème tout à fait différent. C'est un problème de stratégie politique. C'est quelque chose qui concerne, si vous voulez, la politique gouvernementale. Quelle est la finalité d'un conflit? Est-ce qu'il s'agit de donner la place absolue à l'individu avant toute chose, ou bien au devenir de la société? Il est évident que nous voulons tous le retour des otages, mais nous voulons également la victoire sur Hamas. Pas par esprit de vengeance, mais par responsabilité morale. Et cette responsabilité morale exige de notre part d'assumer notre rôle. Or, notre rôle, c'est la lutte du bien contre le mal. C'est ça dont il est question actuellement. Et si le Hamas n'est pas complètement démantelé, ça continuera à alimenter l'espoir de l'islam d'en finir avec Israël. Il faut absolument briser cet espoir.
Mais alors, lorsque vous dites ça, est-ce qu'on risque pas d'avoir des soldats ou même des parents qui disent, mais dans ces cas-là, moi, je ne suis pas intéressé à envoyer mes enfants à l'armée parce que, bon, d'abord, c'est sûr qu'il y a toujours le risque qu'ils tombent au combat, mais que s'ils sont pris en otage, ben, l'État d'Israël ne fera pas tout, justement,
L'État d'Israël fait tout, justement. La victoire contre le Hamas, c'est ça qui s'appelle tout faire. Jusqu'à présent, une partie du combat en faveur des otages a été très maladroit et, en fait, a causé des dommages envers ces otages. Il est évident qu'Israël n'abandonne jamais un soldat, n'abandonne jamais un civil. Et tout le problème, tout le débat n'est pas est-ce que c'est important ou pas. C'est la manière de le faire qui est traité actuellement. L'erreur est de penser que le but de l'action militaire de Tsahal, c'est d'amener le Hamas aux négociations, à la table des négociations. Il ne s'agit pas de négociations, il s'agit d'une entité totalement agressive et barbare et qui ne renoncera jamais à ces otages qui sont pour elle la dernière carte.
Donc il n'y a aucune chance que le Hamas fasse tchouva quelque part.
Écoutez, il y a des chances que l'islam fasse tchouva. Et ça, c'est une question, disons, qui ne concerne pas tel ou tel individu. C'est une question de, disons, de vision globale.
Ouais.
Mais ça dépend de nous.
Alors, il y a, bien sûr, on vous connaît parce que vous êtes très présent dans la communauté francophone, peut-être justement par rapport à ce qui se passe en France justement aussi. Quelle vision avez-vous ? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en
France ? Vous savez comment vous trouvez une synagogue à Paris ? Eh bien, il faut là où il y a de la police. C'est-à-dire qu'en fait, le judaïsme qui avait pignon sur rue il y a 50 ans en France, aujourd'hui est un judaïsme replié sur lui-même, ce qui est sur la défensive. Et donc, il y a le bastion du judaïsme qui va être évidemment entretenu pour des tas de raisons, mais qui finalement cesse d'être effectif sur la vie française. Alors évidemment, il y aura toujours des activistes qui vont tout faire pour défendre Israël, pour rétablir l'ordre dans la rue en France. Mais il faut savoir qu'à longue échéance, nous sommes en fin de l'histoire du judaïsme européen.
Ouais. Donc, plus beaucoup de chances que ça continue, vraiment.
Disons que vous pouvez continuer à vivre en France, mais alors vous vivrez à la manière d'un dhimmi, c'est-à-dire comme les protégés de l'islam, alors vous serez protégé par la France.
Très bien. Donc, tout ça... ça vous laisse du temps quand même pour... ça vous laisse pas beaucoup de temps, je vais dire, au contraire.
Écoutez, il faut savoir s'organiser.
D'accord.
Je fais encore beaucoup d'autres choses. J'écris des livres, oui. Je suis rabbin de communauté, j'enseigne au Machon Mir. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font. Et je suis en train également d'organiser une soirée de gala pour soutien aux activités de l'organisation Brit Olam le 9 septembre prochain. À l'hôtel Ramada à Jérusalem, il faut s'inscrire, vous avez
le lien,
il faut s'inscrire à l'avance, payer à l'avance, et nous aurons non seulement une soirée de soutien, mais également une soirée dans laquelle nous exposerons les différentes activités et les espérances qui en ressortent.
Et il y aura un côté artistique aussi, avec, il y a des invités, bien sûr,
le chanteur Nathan Goshen.
Mais aussi des invités rabbiniques, comme le Rav Léodi.
Oui, absolument. Qui est connu pour son activité, disons, même très cosmopolite, et qui entretient l'espoir de créer un centre mondial de Brit Olam.
Très bien.
Également, nous aurons la présence de l'ancienne ambassadrice d'Israël au Royaume-Uni, Tzipi Khotobeli, qui est en train de finir sa carrière. Également, Dror Idar, qui était ambassadeur d'Israël en Italie.
Très bien.
Et donc, évidemment.
Très bien. Donc, le 9 septembre à l'hôtel Ramada, il faut s'inscrire. On mettra tous les renseignements, bien sûr, dans le petit pitch qui va accompagner cette émission. En tout cas, je vous remercie d'avoir fait comme ça un tour de vos activités et puis aussi un petit tour aussi de l'actualité et de parler des sujets importants de la société israélienne. On aura bien sûr le plaisir de se retrouver et d'en reparler très prochainement. En tout cas, merci d'être venu dans notre studio. Rav Uri Cherki.
Shalom, shalom.